On nous a dit que la crise, finalement, sonnait le glas du néolibéralisme et annonçait le retour de l'État. C'est effectivement votre sentiment ?
Non. Précisément non. Je crois qu'il y a là une erreur de diagnostic. Je crois qu'on se tromperait lourdement, à la fois sur le plan, je dirais, théorique et sur le plan politique, à croire que nous en avons terminé avec le néolibéralisme. Je crois que cette erreur relève d'une mauvaise lecture de ce qu'a été le néolibéralisme et de la façon dont il s'est constitué historiquement. On oppose le marché et l'État de façon assez simpliste, et selon ce schéma, on croit que le néolibéralisme est une doctrine, une idéologie ou une politique économique qui consiste simplement dans l'expansion de la sphère marchande au détriment de la sphère publique. Et on fait comme si nous avions affaire à un simple retour du libéralisme, disons classique, au moins un retour du laisser-faire, tel qu'il a été défini au XVIIIe siècle. Pour dire les choses extrêmement simplement, au fond, beaucoup de gens, et en particulier à gauche, mais aussi à droite, explique que ce à quoi nous avons affaire depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, c'est au retour triomphal d'Adam Smith. Adam Smith, celui qu'on considère comme le fondateur de l'économie politique classique, le fondateur du libéralisme économique. C'est-à-dire qu'en gros, pour aller vite, Adam Smith aurait dit que la société la plus prospère, celle qui apportait le meilleur bien-être à tous, était une société dans laquelle on laissait agir librement les intérêts privés. Et que ces intérêts privés, donc en se coordonnant par le marché, aboutiraient à un bien-être collectif supérieur à toute autre forme d'organisation économique, sociale. Et toujours selon Adam Smith, ou du moins selon la vision que l'on en donne, l'État, le gouvernement, au fond, devrait réduire ses fonctions à quelques actions, en particulier à la défense des frontières, au maintien de l'ordre, au respect des contrats, etc. Bon. En gros, c'est un grand marché et un petit État. Voilà. Et on a cru que le néolibéralisme, c'était cela. C'était ce retour assez aveugle, il faut bien le dire, ce retour, je dirais par certains côtés, fanatique, à se laisser faire. Et l'interprétant ainsi, on en vient à penser que tous les errements, toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, tiennent à cette idéologie du laisser-faire qui se serait traduite par des politiques économiques, donc systématiquement favorables donc à la sphère marchande. Et on en vient très logiquement à penser que la crise actuelle, la crise financière et économique, c'est la crise du laisser-faire et qu'elle appelle comme remède le retour de l'État. Et au fond, on en voit de multiples signes dans les politiques actuelles qui sont menées, qui font par exemple appel à, je dirais, des remèdes keynésiens. Bon. Alors voilà, en gros, la doxa, c'est-à-dire au fond l'idée dominante, l'idée commune qui aujourd'hui est en vigueur. Bon, on la trouve dans la presse, dans les éditoriaux, etc. Bon. Je crois que elle n'est pas totalement fausse, elle est largement fausse, et je vais essayer d'expliquer rapidement pourquoi. On se trompe parce que on ne voit pas que à partir des années 1930, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de tout à fait fondamental. Il s'est passé une sorte de, sinon de rupture, du moins d'inflexion extrêmement importante dans l'histoire du libéralisme. Ce qui s'est passé dans les années 30, c'est que dans une situation qui était assez comparable à la nôtre, puisqu'on était dans les suites de la crise de 1929, eh bien un certain nombre de théoriciens qui se réclamaient du libéralisme, en tout cas, qui pensaient que le marché avait beaucoup de vertus, que la concurrence avait beaucoup de vertus, en tout cas, qui ne voulait absolument pas des régimes, disons, totalitaires, qui se définissaient contre les régimes totalitaires, et bien un certain nombre de théoriciens ont essayé de refonder le libéralisme en s'éloignant, en rompant avec le laisser-faire, en disant même, et là ils étaient vraiment presque plus audacieux que ce que l'on entend aujourd'hui, en disant que c'était le laisser-faire qui avait conduit à la crise de 1929 et qui avait conduit, en tout cas, à des phénomènes sociaux et économiques extrêmement pathologiques. Et que disent-ils ? Que disent ces théoriciens néolibéraux, qu'ils soient allemands, comme Walter Eucken, par exemple, c'est-à-dire les fondateurs du courant ordo-libéral, ou que ce soit des Américains, comme le journaliste et politologue Walter Lippmann, ou encore le philosophe français oublié aujourd'hui, qui s'appelle Louis Rougier. Que disent ces théoriciens qui se sont réunis en 1938 dans un colloque à Paris? Eh bien, ils disent que l'ordre de la concurrence, l'ordre du marché n'est pas un ordre naturel, n'est pas un produit de la nature humaine, comme le dogme du laisser-faire pouvait le prétendre, qu'il s'agit au contraire d'une création, d'un artifice juridico-politique, et qu'il nécessite donc une intervention de l'État. Donc ces néolibéraux des années 30 nous expliquent quelque chose de tout à fait important qu'on doit écouter aujourd'hui. Ils nous disent que l'ordre de la concurrence est un ordre construit. Alors évidemment, je vous passe les détails, la complexité, puisqu'ils ne sont pas absolument tous sur cette ligne-là. Mais enfin, c'est quand même l'idée que le libéralisme, ou le règne du marché, ce n'est absolument pas le règne de la jungle. Ce n'est pas la sauvagerie, ce n'est pas la spontanéité où l'on fait ce que l'on veut. C'est un ordre construit. Ce qui, évidemment, a des implications importantes pour la suite. Parce que ce n'est pas seulement quelques individus qui expliquent ça. Ceci va donner lieu à des pratiques, à un certain nombre de politiques. Et on pourrait prendre, par exemple, comme illustration, la construction européenne, qui, dès les années 50, va se construire sur l'idée que l'ordre de la concurrence est le produit d'une politique, et doit être le fruit d'une politique, doit être la production, en quelque sorte, d'un droit économique. Et c'est bien ce qui sera inscrit dans le traité de Rome de 1957 sous la forme, je dirais, d'un principe à valeur constituante qui est donc la concurrence libre et non faussée. C'est là où on voit sans doute le mieux que ce qu'est le néolibéralisme. Enfin, en tout cas, une de ses expressions, je dirais, la plus pure, la plus épurée. On a affaire à des gens qui vont un ensemble de politiques, plus exactement, qui veulent mettre en place un marché, mais un marché institutionnalisé, un marché qui suppose tout un appareillage juridique, qui suppose à la fois des principes et qui suppose une législation entière. Et plus encore, qui suppose des politiques qui vont entretenir cet ordre concurrentiel. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui vous montre au fond que si l'on cherche un peu, on voit que ce qui s'est passé depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'extension de la sphère marchande et le retrait de l'État. C'est, je dirais, autre chose. C'est la construction juridico-politique d'un ordre de la concurrence. Et pas seulement à l'échelle nationale, pas seulement même à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. Et voyez que ça change un peu les perspectives, parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus opposer simplement le marché et l'État, selon le schéma, je dirais, dominant aujourd'hui, mais qu'il faut bien comprendre à quel point l'État a mis la main, si je puis dire, dans cette construction. Nous avons eu affaire à un État néolibéral, insistons sur ce terme-là, État néolibéral, c'est-à-dire un État dont les principes et dont les objectifs sont précisément ceux de la concurrence, c'est-à-dire au fond ceux du marché. Tout s'est passé comme si l'État était un instrument de création, de construction du marché, mais comme si l'État avait lui-même incorporé les normes du marché dans son propre fonctionnement. Vous voyez, en quelque sorte, qu'à la fois la dynamique et, je dirais, la géographie, si je puis dire, de ce que nous décrivons dans notre livre, n'a pas grand-chose à voir avec cette espèce de petit mécanisme élémentaire d'un marché en expansion et d'un État qui se rétrécit.
On pourrait peut-être vous dire que c'est une bonne chose que l'État ait pris en compte justement la concurrence, parce que la concurrence est une bonne chose, non ?
Oui, alors, la question, pour moi, n'est pas là. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Est-ce que la concurrence est mieux que le monopole ? Est-ce que la concurrence est mieux que le cartel ? Bon, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de voir que la concurrence est érigée en principe universel de relations entre États, entre systèmes sociaux, entre entités économiques et entre individus. Si vous voulez, si vous vous contentez de regarder le fonctionnement d'une économie de marché, vous pouvez vous dire que la concurrence a des vertus pour le consommateur, etc. Bon. Mais en fait, il s'agit de tout autre chose. Ce dont il s'agit, c'est finalement d'un principe du lien humain, si je puis dire. Et ça va beaucoup plus loin que la question de la seule efficacité économique. En fond, ce dont on est en train de parler, ce n'est pas simplement d'une politique économique, c'est d'une politique sociale. C'est au fond même d'une société. C'est de la façon dont les gens s'organisent les uns par rapport aux autres. Il se trouve que cette concurrence, elle est interprétée depuis la fin du XIXe siècle, et je crois qu'il faut revenir un peu en arrière, comme un principe de sélection et d'élimination. Vous me dites que la concurrence, eh bien, je vais vous citer un philosophe très important pour comprendre ce qui est en jeu au XXe siècle. Ce philosophe et sociologue anglais s'appelle Herbert Spencer. C'est celui dont on dit qu'il est un darwinien ou un darwiniste social. L'expression est assez fallacieuse parce que Darwin n'a pas grand-chose à voir avec ça. Herbert Spencer, donc à la fin du 19e siècle, explique que finalement la concurrence entre les individus va permettre la survie des plus aptes. C'est-à-dire qu'en fait, il fait semblant, en quelque sorte, d'incorporer, de récupérer le principe de la sélection naturelle comme un principe d'organisation sociale. Eh bien, cette sorte de concurrentialisme, ce concurrentialisme va être le socle, finalement, des édifices doctrinaux et politiques du XXe siècle. Il s'agit, au fond, de savoir qui a le droit, en quelque sorte, de survivre. Et que ça soit des entreprises, que ça soit des systèmes politiques et sociaux, que ce soit des individus, il est question de savoir si un tel va pouvoir survivre parce qu'il est le plus fort, et tel autre va devoir être éliminé. Et je pense qu'il y a dedans, comme vous comprenez, un principe terrifiant. Un principe absolument terrifiant qui est aussi celui qui anime pour une part le racisme. Alors je crois que ce qu'il faut bien saisir, c'est que la concurrence est un principe général d'organisation des sociétés, mais je dirais même du monde. Ce qui a été mis en place à partir des années 80 spécialement, ce que nous appelons le grand tournant, c'est la mise en place d'une norme mondiale de la concurrence, avec comme agent, je dirais, actif, les grandes organisations internationales bien connues, l'OMC, l'OCDE, FMI. Au fond, l'opération a consisté à faire en sorte que tous les États aient pas seulement les organisations politiques, mais aussi tous les systèmes sociaux, les systèmes de protection sociale, les systèmes fiscaux, soient mis en concurrence. Et au fond, selon un principe qui est celui de la sélection. On a supposé que les agents privés, d'une certaine façon, allaient être en position d'arbitrage pour choisir les meilleurs systèmes. Quels agents étaient mis en position d'arbitrage? Évidemment, ceux qui sont les détenteurs des facteurs mobiles, en particulier du capital. Il est absolument clair que ce qui s'est joué dans les 20 ou 30 dernières années, c'est le fait qu'on a donné aux détenteurs de capitaux un pouvoir absolument sidérant, un pouvoir considérable d'arbitrage entre les systèmes fiscaux et sociaux. Et d'ailleurs, on peut même dire que ça a été théorisé comme le grand avantage de la mondialisation, cette mise en concurrence. Évidemment, au détriment d'agents économiques et sur de couches entières de la société, je dirais les salariés fixes et qui ont été de moins en moins protégés par les systèmes sociaux. En tout cas, dans ces salariés ont été précarisés, menacés de plus en plus, justement, par cette mise en concurrence. Je veux dire, tout le monde n'est pas à égalité dans cette concurrence. Évidemment, ce sont ceux qui sont les plus forts qui en général, emportent la lutte. Le mot lutte est très important, me semble-t-il. La norme néolibérale est une norme qui est fondée sur la lutte généralisée de gens inégaux dans cette lutte. Donc, le néolibéralisme est foncièrement une rationalité inégalitaire, qui fonctionne à l'inégalité et qui produit de l'inégalité.